Comment les livres changent le monde? Une série proposée par Régis Debray, conduite par Didier Leski, avec la collaboration d'Alban Cerisier.
Faire événement est une chose, souvent sans lendemain. Marquer un événement en est une autre. À côté des livres qui font du bruit, tant mieux pour eux, il y en a certains, plus rares, appelés à faire époque, dont on peut dire qu'avec eux, il y eut un avant et un après. C'est de cela, et en particulier de ceux parus entre 1900 et 1945, dont nous voudrions évoquer les retombées sur le cours des esprits, des pouvoirs, des mœurs et des combats.
Parmi les ouvrages qui ont pu infléchir, La marche du monde ou La conscience que nous en avons, une chambre à soi de Virginia Woolf, ou un lieu à soi, ou encore une pièce bien à soi, selon les traductions, paru dans sa version originale anglaise le 24 octobre 1929. L'ouvrage fut publié simultanément à la Hogarth Press, la maison d'édition que Leonard et Virginia Woolf avaient installée dans leur maison de Richmond dès 1917, et par Harcourt Brace aux États-Unis. Cet essai d'une romancière s'interroge, avec son exceptionnelle liberté d'expression et de propos, sur les conditions de possibilité d'un accès des femmes à la création littéraire, s'il s'inscrit dans le prolongement de l'immense œuvre critique de l'auteur, en particulier dans la grande presse londonienne. Il dévoile la portée et la radicalité de ses conceptions féministes, usant de son humour frondeur et des vagabondages qu'autorise le genre de l'essai, comme instrument de dissection sociale, visant peut-être bien au-delà de la seule cible littéraire. Une chambre soie trouve son origine dans une conférence prononcée à Cambridge en octobre 1928 dans les deux premiers grands collèges féminins de la ville. Et le texte en avait d'ailleurs été publié dès 29 aux États-Unis. En transformant cette conférence destinée à un public sinon acquis du moins choisi en un livre qui connut un succès de vente immédiat et sans précédent, dont on parla également à la BBC et dont on fit l'éloge à la BBC, Virginia Woolf a fait entrer ses idées et sa manière si subtile de les mettre au jour dans une société qui était sans doute déjà préparée à les entendre. Alors que la première édition de poche américaine de l'ouvrage était tirée à 100 000 exemplaires dès 45, la France semble avoir mis plus de temps à découvrir l'essai de cet auteur dont les principales œuvres littéraires étaient pourtant déjà traduites. Et c'est à Clara Malraux que l'on en doit la première traduction française sous la couverture des éditions Robert Marin en 1951. Après le deuxième sexe, donc, mais Simone de Beauvoir l'a lu dans sa langue d'origine et cette lecture lui a inspiré un assez long développement. Si depuis quelques années il compte parmi les livres de Virginia Woolf les plus lus, force est de constater que cette révélation fut donc plus tardive ici qu'ailleurs et que nous comprenons peut-être bien que depuis peu sa vérité et ce que nous lui devons. Il n'est qu'à relire La vie matérielle de Marguerite Duras pour se convaincre de ce décalage de temps. Je cite « J'ai lu Une chambre à soi de Virginia Woolf et La sorcière de Michelet. Ces deux livres-là, c'est comme si j'avais ouvert mon propre corps et ma tête et que je relise le récit de ma vie au Moyen-Âge, dans les forêts ou dans les manufactures du XIXe siècle. Le Woolf, je n'ai pas trouvé un seul homme qui l'ait lu. Nous sommes séparés, comme elle dit dans ses romans. MD. » Livre d'union ou de séparation. Quelle a été au juste la valeur d'entraînement de cet essai littéraire de grande portée? C'est autour de cette question que nous aurons le grand plaisir de converser avec nos deux invités du jour.
Nathalie Azoulay, bonjour. Vous êtes romancière et traductrice. Vous avez reçu le prix Médicis en 2015 pour votre roman « Titus n'aimait pas Bérénice » paru chez POL. Vous avez publié chez le même éditeur en 2021 une nouvelle traduction de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Et votre dernier ouvrage, Une fille parfaite, est parue en 2022, toujours chez POL. Naomi Todd, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université de Nanterre, spécialiste de littérature anglophone. Parmi les nombreux articles et ouvrages auxquels vous avez participé, signalons l'écriture vive, Woolf Sarrote, une autre phénoménologie de la perception, parue dans les classiques Garnier en 2016. On peut aujourd'hui lire Une chambre à soi sous ses différents titres dans plusieurs collections de poches, dans les traductions de Clara Malraux, Élise Argot, Marie Dariussec et Sophia Chiari, ainsi que dans les romans et essais réunis dans la collection Quarto chez Gallimard. Mais avant de commencer notre conversation, place au préfacier de chacune de nos émissions. À vous, Régis Debray.
Écoutez, tout a été dit par Alban Cerisier. Que pourrais-je ajouter ? On pourrait évidemment se simplifier la tâche en expliquant le tout de cette femme par son suicide, puisqu'elle se noie en 1941. dans le fond de la rivière Aos, après avoir cousu de lourdes pierres à ses poches. Elle qui, sa vie durant, cherche à peaufiner l'écriture du flux de conscience, a ainsi décidé d'arrêter net le flux de sa conscience. Virginia Woolf a souffert d'un mal psychique profond, fait d'hallucinations, de dépression. Elle a aussi perdu sa mère, son père, ses demi-frères dans un laps de temps très court. Pourtant, sa vie et son œuvre ne peuvent évidemment se résumer à une case du manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux. Celle qui naît en 1882 à Londres est beaucoup plus riche que sa mélancolie. C'est une très fine observatrice, sans doute en avance sur son temps, avec son ironie piquante et son acuité sur tout ce que l'on ne désigne pas encore comme un genre. Se voulant libre dans une société victorienne corsetée, elle sera l'âme d'une élite hétérodoxe, la communauté Bloomsbury, où l'on partage presque tout, les amours y compris, et l'économiste Keynes pourra lui-même y vivre son homosexualité. Elle affirme donc dans une chambre à soi que la femme britannique doit tuer l'ange du foyer en elle, et elle transforma son foyer. Cela a été dit en une maison d'édition et d'imprimerie, où son mari et elle installent une petite machine à imprimer dans leur cuisine pour publier non seulement les livres de Virginia, mais aussi ceux de Rilke, de T.S. Eliot, auteur de la NRF, ou encore de Freud, dont elle dévore les livres à la fin de sa vie, mais lui, semble-t-il, ne l'a jamais lu, elle. Elle écrit dans tous les genres et sur tous les thèmes. La journée d'une femme dans Mrs. Dalloway, la biographie d'une poétesse racontée par un chien dans Flush, une nouvelle du point de vue d'un escargot, un roman qui cache une déclaration d'amour pour celle qui fut son amante, Vita Sackville-West, travestie en homme dans Orlando. Lucide, elle n'omet même pas d'analyser son propre goût pour les mondanités, non sans autodérision. Elle critique sévèrement certains codes de l'hypocrisie bourgeoise. Et puis voilà qu'elle rédige son pamphlet, Une chambre à soi. L'idée de cet ouvrage, devenu culte, la rencontre nécessaire du romanesque et du féminin. Virginia Woolf l'écrit en 1928, l'année où les suffragettes, après 3 décennies de lutte, obtiennent le droit de vote pour les femmes de plus de 30 ans en Angleterre. Elle y dénonce l'inégalité entre les sexes, remet en cause le système patriarcal. Elle anticipe, si l'on peut dire, cette pensée de Françoise Giroud, la femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où un poste important, on désignerait une femme incompétente. Plus que le droit de vote, je cite, « Une femme doit avoir de l'argent et un lieu à elle si elle veut écrire de la fiction ». Ainsi nous sont présentées les 2 conditions pour qu'une femme puisse écrire et être libre, avoir un espace et avoir de l'argent. D'où l'importance, précisément, d'avoir suffisamment d'argent pour prétendre à cet espace. Virginia Woolf évalue cette indépendance à 500 livres de rente par an. On n'échappe pas facilement à ses origines de classe. Elle tient même que la vérité surgira d'un amoncellement de mensonges savamment agencés. Sa théorie se fait donc roman. Pourquoi une femme, dit-elle, n'aurait-elle pu être l'auteur d'Hamlet? Tout simplement parce qu'elle n'aurait pas eu l'espace physique et psychique nécessaire pour l'écrire. Alors, Virginia nous embarque dans une uchronie. Si Shakespeare, disons, avait eu une sœur aussi brillante et avec le même goût de l'écriture que lui, celle-ci n'aurait probablement pu que gribouiller sur des feuilles volantes qui auraient vite disparu avec elle. Et au-delà des conditions matérielles qui empêchent nombre de femmes d'écrire tout en leur rendant hommage, elle regrette que certaines de ses consoeurs se cachent derrière un nom d'homme. Currer Bell est le nom qu'utilisa Charlotte Brontë ou encore Marianne, celui de George Eliot et bien sûr George Sand, qui était née Madame de Francueil. Ce n'est qu'en 1980, rappelons-le, que notre Académie française va s'autoriser à élire une femme, Marguerite Yourcenar, après quoi Jacqueline de Romilly transformera l'épée héréditaire en sac à main brodé. Et aujourd'hui, Chantal Thomas, la dernière immortelle, en éventail japonais. cette petite métamorphose d'un attribut militaire en accessoire de fantaisie, d'un uniforme obligatoire en caprice individuel, en dit long sur l'époque. À bas l'autorité, vive l'originalité. À bas le protocolaire et le disciplinaire, et vive le quant à soi et l'inventif. C'est ce glissement civilisationnel qu'annonçait déjà, mieux que revendiqué à sa façon, une romancière anglaise en avance sur son temps, comme le sont si souvent les Britanniques, sous couvert de la tradition. Comme si cette dernière excitait, en réaction, le pas de côté et le pied de nez. Reste qu'à son époque encore dominée par le masculin, la transgression avait un coût. Une époque, rappelons-le, où les femmes n'avaient pas le droit d'accéder aux lieux publics sans être accompagnées d'un homme. Cette liberté, absente mais rêvée, accentuera encore la mélancolie de Virginia. Faut-il rappeler finalement que la révolution féministe est la seule révolution réussie au XXe siècle ? Une chambre à soi n'y aura pas été pour rien.
Naomi Todd, c'est un pamphlet ? C'est quoi exactement une chambre à soi ou une pièce à soi ?
Alors, c'est un essai qui emprunte les outils de la fiction pour faire une sorte de voyage dans l'esprit de la voix narratrice qui raconte comment elle est arrivée à la vie qu'il faut pour une femme pour écrire de l'argent et une chambre à soi, un lieu à part. Et donc, je crois que c'est la question du genre de l'essai, elle est en train d'être éclatée dès les premières pages. Virginia Woolf, elle a une façon de présenter le sujet quand on lui a commandé de traiter. Donc,
C'est une commande, en fait, cet ouvrage.
C'est une commande, oui. C'est une commande et c'est assez important aussi, parce qu'il y a quelque chose dans la commande qui fait qu'elle va prendre en charge cette manière souvent de demander à quelque chose à des femmes, et elle va en faire quelque chose où elle peut dire ce qu'elle veut faire, qu'elle veut dire tout à fait.
Mais il y a un choix fort chez elle, que j'évoquais en début d'émission, qui est d'en faire un livre. Je veux dire, il y a quand même une nuance entre faire une conférence auprès d'un public et prendre la décision de reprendre cette conférence, de le réécrire, de le prendre sous son nom, de le publier sous son nom. Enfin, c'est quand même un acte très fort pour un livre de cette nature-là.
Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a quelque chose là aussi où elle a voulu en faire quelque chose qui pourrait être accessible à un plus grand nombre. Parce que c'est pas que des femmes dans un collège pour femmes à Cambridge à qui elle s'adressait. En fait, elle s'adressait aussi à toutes les femmes qui n'ont pas pu accéder à ce collège et à qui elle incite aussi à pouvoir à se saisir des occasions nécessaires pour pouvoir écrire.
Et c'était déjà une romancière connue quand elle fait ça.
Oui. Donc il y a déjà Mrs. Dalloway, qui est publiée en 1925. Il y a Vers le phare, qui apparaît l'année précédente, 1927. Et puis, la même année qu'elle fait ces conférences-là, apparaît Orlando. Je pense aussi que la coïncidence entre Orlando, donc ce récit assez fantastique, dans le sens où ça commence avec un personnage qui naît à l'époque Elizabeth I, comme homme, et puis ce qui se transforme en femme au cours de ces 4 siècles de vie et qui arrive à la fin du roman, donc en 28, à l'âge de 36 ans, comme une femme poète qui écrit son œuvre en tant que femme aussi. Donc là, on a affaire quand même à une expérimentation à la fois dans la forme, mais aussi dans la façon dans laquelle on peut penser les questions de genre, extrêmement novatrice et intéressante.
Et dans quel état d'esprit elle écrit ce livre, Une chambre à soi ? Je veux dire, dans une sorte d'empressement, au contraire de réflexion, de retrait, d'affinement de l'argumentation ? Est-ce qu'on sait un peu les coulisses de l'écriture de cet essai ?
Mais je pense qu'elle a rassemblé les plusieurs conférences qu'elle a données à Cambridge, et puis ensuite on voit bien qu'il y a quand même une forme très cohérente du début jusqu'à la fin du livre, qu'elle a retravaillé assez rapidement parce que ça paraît dans les mois qui ont suivi la conférence. Donc je pense qu'il y a un travail assez rapide de réécriture de ce qu'elle avait pu dire, et qui aussi se sent, et en même temps c'est d'une précision dans l'écriture assez impressionnante.
Nathalie Azoulay, justement, c'est une précision dans l'écriture, cette forme un peu particulière du roman et en même temps du manifeste politique, c'est ce qui fait sa force.
Oui, et je pense qu'il n'est pas écrit comme un manifeste, c'est-à-dire qu'il y a une modernité et un mélange des genres dans ce livre qui en font toute la saveur. Il me semble aussi qu'il y a une volonté de provocation qui est très forte, c'est-à-dire qu'on lui commande des conférences sur le thème du roman et des femmes, Et elle balance, c'est le mot, au bout de quelques lignes, qu'il faut avoir une chambre et de l'argent. Et donc, on attendait une espèce de déroulement.
Et que le droit de vote ne suffit pas.
D'histoire littéraire ou de littérature. Et en fait, non, elle fait une espèce de. Elle prend une position marxiste dès le départ, qui est tout à fait inattendue, fantasque et un peu excentrique, comme elle était d'ailleurs.
Oui. Donc, avec un aspect de dénonciation très fort. L'Angleterre vit sous un régime patriarcal.
Voilà. On va se mettre à regarder très précisément ce que c'est que la condition sociale de l'écrivain. De l'écrivain femme ou de l'écrivain homme. Elle commence aussi de manière plus générale. Donc il y a chez elle une volonté de prendre parti, mais avec cette liberté, avec cette ironie, avec ce jeu, comme disait Naomi Todd, avec la fiction, c'est-à-dire avec ces personnages imaginaires qu'elle crée, comme Judith Shakespeare, ou même une femme comme Mary Carmichael. Enfin, il y a des tas de personas littéraires qui émaillent le texte et qui font des pas de côté, qui décalent le propos, et même il y a des prises de position même qui sont pas aussi féministes qu'elles n'en ont l'air. Donc je trouve que le livre n'est pas le pamphlet qu'on dit, il n'est pas la charge qu'on dit, il est beaucoup plus subtil et plus sophistiqué que cela.
Et du reste, elle-même dira « je ne suis pas féministe ». Enfin, elle avait un rapport au mot même qui était de ne pas se laisser enfermer dans une sorte d'essentialisme.
Absolument, et je crois qu'elle n'aime pas les chapelles. Je crois que c'est quelqu'un qui est trop libre pour ça, qui a trop d'enjeux personnels. Il faut aussi dire que les conférences qu'elle va faire à Cambridge et qui donneront le livre, elle va les faire avec Vita Sackville l'Ouest à son bras. C'est-à-dire qu'il y a déjà un positionnement un peu subversif dans le fait même de l'action des conférences, qui en dit long sur cette femme qui, par ailleurs, est mariée et qui a cette liberté de circulation entre tous ces statuts. Donc, je pense que sur le féminisme, elle n'est pas univoque. Et dans ce texte, il y a par exemple un énoncé qui est très fort, qui est que elle veut que les femmes sortent de la protection et qu'elles aillent s'exposer. Donc elle demande aux femmes aussi une part d'action qui les sort de la passivité, de l'accusation globale du patriarcat qui les opprimerait, etc. Donc c'est beaucoup plus nuancé que ce qu'on peut...
Oui, elle parle de la condition féminine comme celle d'une espèce protégée, effectivement.
C'est très important, ça. Et elle dit, certes, il faut avoir de l'argent, mais il faut gagner l'argent. Donc c'est pas seulement elle bénéficiait d'une rente familiale, bon, parce qu'elle était issue du milieu qu'on sait, mais gagner de l'argent, c'est encore autre chose pour une femme.
Et Naomi Todd, cette sœur donc de Shakespeare fictive, enfin quel rôle elle joue dans l'argumentation et dans la narration quasiment d'une chambre à soi? C'est quoi son rôle dans ce dispositif d'argumentation?
Elle est très importante. C'est une sorte de fable, la sœur de Shakespeare. Donc, comme Régis Debray a dit au début, elle imagine que Shakespeare a eu une sœur tout aussi brillante que lui, mais que cette sœur n'a pas pu avoir les conditions matérielles pour écrire son œuvre. Elle a refusé le mariage, elle se retrouve du coup dans les rues, elle va essayer de taper sur les portes des théâtres, elle ne peut pas y être admise. Donc du coup, finalement, parce qu'elle veut, elle veut vraiment, elle commence à entretenir une relation avec le directeur du théâtre, elle se retrouve enceinte, sans un sou, et donc du coup elle se tue. C'est pas possible pour elle avec cette génie-là, et toutes ces contraintes de survivre dans ce monde. Et cette sœur de Shakespeare, Judith Shakespeare, elle cherche à trouver des moyens pour que sa sœur de Shakespeare puisse se réincarner aujourd'hui. Et je pense que ça revient à quelques questions par rapport au style de l'essai aussi. Parce qu'elle utilise une voix qui est... elle se désigne tout au début de l'essai comme étant... qui elle est n'est pas importante. Oui. Elle dit « Appelez-moi Mary Beaton ».
Elle neutralise la question du sujet qui parle, en gros. Voilà.
Exactement. Et c'est pour vraiment faire aussi entendre une voix collective. Oui. Une voix qui traverse les siècles aussi. Et une voix qui, du coup, s'oppose aussi à certaines valeurs de l'écriture qu'elle a héritée dominante de la littérature canonique masculin, écrit par les hommes. Et donc, du coup, elle essaye de trouver aussi un style qui permet aussi que les voix multiples de l'histoire, des femmes de l'histoire, puissent aussi trouver écho aujourd'hui. Et où on peut trouver ça. Je voudrais aussi juste revenir brièvement sur cette question du féminisme, parce que je pense que c'est un point important aujourd'hui. Puisque c'est vrai qu'elle dit dans Trois Guinées, pas dans Une chambre à soi, donc Trois Guinées, un autre essai très important de Virginia Woolf.
Contre la guerre. Publié au moment de la guerre d'Espagne.
Exactement. Et dans l'argument, si on peut le résumer très rapidement, c'est que tout pacifisme qui n'est pas un féminisme rate son but. Voilà. Ça, c'est pour être très très bref. Donc, et en même temps, elle rejette le mot féminisme justement parce que elle craint que toute assignation identitaire fixe où on reste entre soi uniquement sur le long terme devient stérile et problématique et les forces d'exclusion aussi puissent être là. Donc du coup, c'est quelque chose que je crois que elle cherche quand même à avancer des arguments extrêmement forts pour l'époque et même pour aujourd'hui, je dirais, qu'on qualifierait nous comme féministes.
Mais oui, parce qu'elle la passe au scalpel quand même, cette société qui l'entoure. Enfin, c'est frappant.
C'est très clair.
Il y a une critique très très fondamentale.
Nathalie Azoulay.
Et puis il y a une chose très importante qui est presque anthropologique, qui est que elle dit très clairement qu'il faut arracher la confiance en soi, en fait. Elle dit le monde des hommes vit dans cette domination parce que ils ont la confiance en eux. Et pour avoir la confiance en soi, il faut considérer que l'autre partie est inférieure. C'est une espèce de postulat, comme ça, d'action. Et donc, elle dit, il faut que ce postulat, à un moment, passe de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des femmes, et qu'on considère qu'on est supérieur au reste de l'humanité, et qu'avec ça, on acquiert la confiance qui fera qu'on agira. Donc, évidemment, ça, ce sont des positions qui ressemblent très fort à ce qu'on peut entendre aujourd'hui, et qui suscitent de la part des femmes vis-à-vis des hommes une sorte de maltraitance, entre guillemets, c'est-à-dire, il faut y aller fort, il faut les malmener, il faut abuser même de ces mauvais traitements, mais la confiance en soi passe par là.
Et alors cette confiance en soi, elle va beaucoup plus loin, puisqu'au fond, elle dit il faut être femme et masculin, ou homme et féminin, et elle même une remarque sur Proust qui est assez intéressante. Elle dit Proust est complètement androgyne, peut-être même un peu trop féminin, c'est-à-dire dans cette affirmation, dépasser l'idée d'une essentialisation femme, en fait.
Oui, elle défend très fort, comme beaucoup d'écrivains femmes le feront par la suite, la position androgyne de l'écriture. C'est-à-dire que elle s'érige, comme beaucoup d'autres, et comme Nathalie Sarraute par exemple, contre le fait que l'écriture serait essentiellement féminine quand elle est opérée par des femmes. Et donc c'est vrai que les écrivains qu'elle valorise chez les hommes ont cette double part. Il y a Proust, il y a Coleridge, il y a Keats, voilà, il y a plusieurs écrivains. Et il y en a d'autres dont elle dit qu'ils sont seulement masculins, comme s'il leur manquait un côté des choses. Donc, de fait, ça, c'est une position qui est très importante pour dérouler, je dirais, une émancipation de l'écriture pour les femmes. À savoir qu'on n'écrit pas uniquement en tant que femme, avec un corps de femme et des préoccupations de femme. Qu'il faut pouvoir aller circuler, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire il faut sortir de la maison, il faut sortir de la protection des hommes pour s'exposer et pouvoir écrire comme eux.
Et donc, en même temps qu'elle dit qu'il faut sortir de la maison, elle choisit comme titre une pièce bien à soi, une chambre à soi. Il y a quelque chose de fondamentalement paradoxal dans cette
dans ce positionnement. Oui, mais la chambre à soi, elle est dans la maison, mais elle est protégée, elle est fermée, fermable à clé. Elle est le lieu du retranchement et le lieu où le bruit familial cesse. Et je dirais que c'est avec les moyens du bord aussi, la chambre à soi. Donc,
Nathalie Azoulay, dans ce rebond de l'œuvre, tout à l'heure, vous avez parlé de cette position quasiment marxiste, et il va y avoir un moment où on ne va plus parler de cette chambre à soi, et puis à partir des années 60, je dirais, la fin des années 60, justement, quand la question de la place économique des femmes va rejaillir, avec cette idée de leur indépendance juridique, le livre réapparaît, c'est ça qui est concomitant peut-être.
Oui, c'est vrai que le livre a une nouvelle vie avec le féminisme de la fin des années 60, des années 70, chez les anglo-saxonnes, mais aussi chez certaines françaises, parce que il y a dedans, en plus qu'en germe, en effet, une vision très très matérielle du métier d'écrivain. En fait, il y a un syllogisme dans ce livre, c'est-à-dire qu'elle dit pour écrire, il faut être éduqué, pour être éduqué, il faut avoir de l'argent, les femmes n'ont pas d'argent, donc les femmes ne peuvent pas écrire. En gros, c'est très simple pour elle, et c'est ce syllogisme qui font complètement révisé. Et donc les féministes dans les années 70 reprennent tout ça avec beaucoup de virulence et la véhémence qu'on sait, et heureusement lui redonne une place de choix, parce que c'est vrai que pendant très longtemps elle a subi quand même sa mauvaise réputation de femme dépressive, et que donc on faisait pas très cas de ces positions dont on avait l'impression qu'elles étaient toujours guidées par ses démons intérieurs, alors que souvent elle regardait la société avec beaucoup beaucoup d'acuité et de clairvoyance.
Mais en même temps, Naomi Todd, lorsqu'elle publie cet essai Vernina Woolf, c'est quelqu'un qui participe très activement à la vie sociale de son temps. Elle est présente dans les grands quotidiens, peut-être pas en les signant d'ailleurs ses articles. Hein. Je crois qu'il y a une question d'anonymat qui se pose aussi. Mais globalement, elle vit dans une société, elle y contribue complètement. Elle a un rôle totalement central dans la vie culturelle anglaise.
Oui, tout à fait.
C'est une femme double, comme on dit qu'il y a des hommes doubles, c'est-à-dire ceux qui sont à la fois auteurs et éditeurs. Elle est typiquement une femme double, donc elle agit sur les conditions matérielles de réception des œuvres.
Tout à fait. Je pense qu'elle vit vraiment ce qu'elle écrit aussi. Elle essaye vraiment de mettre en acte ce qu'elle dit. Elle a une vie très importante dans le cercle de Bloomsbury, mais bien au-delà aussi en Angleterre à cette époque-là. Mmh. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose dans la réception qui, dans les années qui ont suivi sa mort, ont vraiment mis l'accent sur la femme qui avait des épisodes psychiatriques et qui s'est suicidée. Et cette image a malheureusement pendant longtemps occulté le reste de son œuvre et a occulté son humour, sa vivacité, ses engagements dans l'écriture et aussi dans des causes. Elle était peut-être pas dans les rues, mais elle était vraiment beaucoup là dans ses écrits à soutenir beaucoup de choses dans la société. Elle avait une curiosité immense. Elle publiait beaucoup dans le Times Literary Supplement, aussi beaucoup d'autres publications. Donc je pense que c'était quelqu'un qui a vraiment compté pendant longtemps, pendant les années 40, les années 50, on disait les hommes de 1922. Je dis ça parce que c'est le centenaire de 1922 aujourd'hui. Il faut parler d'une année très importante dans l'écriture moderniste anglophone. Et on citait Pound, on citait Joyce, on citait Eliot. Aujourd'hui, c'est impensable de ne pas citer Woolf. Et ça aussi, c'est quelque chose qui s'est beaucoup opéré dans les années 70, où on a commencé à relire les essais de façon plus importante et à avoir des débats au sein du féminisme et au sein des études littéraires sur l'héritage de son œuvre. Et on a vraiment commencé à voir ça très différemment.
Et quand Marguerite Duras constate qu'elle n'a pas vu un seul homme qui ait lu ce livre, ça vous évoque
ça
quoi?
Ça doit être encore assez vrai. Ah non, vous êtes là.
Si on est les quelques-uns.
Il y a des lecteurs ici.
Mais non, vu la réception du livre, je pense qu'il y a quand même quelques hommes aujourd'hui qui le lisent, peut-être, je ne sais pas.
Je pense que dans les universités aux États-Unis, en Angleterre, c'est quasiment impossible de terminer un cursus de lettres sans avoir lu Woolf et même sans avoir lu Une chambre à soi en particulier.
Ah oui.
Je pense que c'est
et justement, dans cette lecture, il y a sans doute une évolution entre les années 70 et aujourd'hui, où on doit beaucoup plus penser la question de la fluidité du genre et de la non-assignation genrée, alors que, dès le départ, la condition matérielle, elle est directement présente, puisqu'elle dit il vaut mieux être indépendant économiquement que qu'avoir le droit de vote, même dans le texte lui-même, Nathalie Azoulay.
Oui, c'est vrai que la relecture de la fin du XXe et d'aujourd'hui tire un peu le texte vers autre chose, c'est-à-dire qu'on a parlé, en parlant de chambre à soi, de safe space, qui me semble un tout petit peu abusif, mais on y a vu aussi les germes de ce test de Bechdel, qui s'appelle comme ça je crois, où, vous savez, la littérature et le cinéma ont été revus en fonction de certains critères. Est-ce qu'il y a deux personnages féminins dans l'œuvre? Est-ce que ces deux personnages féminins sont nommés? Et est-ce qu'ils parlent ensemble d'autre chose que des hommes? Voilà, ce sont les trois critères qui font passer les œuvres dans la catégorie féministe et acceptable. Et de fait, elle en parle de ces critères. Donc c'est vrai que pour les féministes plus virulentes des années présentes, il y a tout ce qu'il faut pour l'attirer vers ça. Mais je ne crois pas que dans son esprit, elle soit allée aussi loin dans la révision, je dirais, des patrimoines culturels.
Naomi Todd.
Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je crois que il y a ce qui est aussi assez génial dans sa forme d'écriture, c'est que elle est toujours en train d'avancer des arguments, puis ensuite de les mettre en question. Et ça, sur la question de l'écriture dite féminine, et puis l'écriture androgyne, c'est assez intéressant parce qu'elle commence en disant que pour une femme, il faut penser à travers ses mères. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait que quand dans la littérature on n'a pas beaucoup de mères. Il n'y a pas beaucoup d'écrivaines qui ont déjà écrit dans l'histoire littéraire, ou en tout cas qu'on n'ait pas les traces. On se retourne vers l'histoire et on voit comment est-ce que les femmes ont été représentées. Bon, d'abord, elles ont été peu représentées pendant des siècles, et puis ensuite, elles ont été représentées par des hommes et dans leur relation avec les hommes. Donc, comment faire? Si on est une femme dans les années 20 et on veut écrire, où est-ce qu'on va trouver les outils pour pouvoir exprimer cette part d'humanité et d'expérience qui n'a pas encore trouvé place dans la littérature, dans l'histoire, dans les sciences sociales en général? comment est-ce qu'on va trouver les outils? Et c'est pour ça qu'elle essaye de encourager les femmes à créer ce qu'elle elle appelle une phrase féminine à un moment. Ouais. Et ce qui a pu aussi amener à toutes sortes d'interprétations. Mais cette idée-là d'une phrase féminine est là pour exprimer quelque chose qui n'a pas encore été exprimé en littérature et qui est important dans sa conception de l'écriture androgyne. Parce que l'écriture androgyne ne peut pas, par définition, exister s'il n'y a pas une façon de s'exprimer féminin. Alors, féminin, c'est-à-dire qui exprime une expérience des femmes qui n'a pas encore eu place dans la littérature.
Direct.
Donc il fallait la créer, cette phrase.
France Culture, comment les livres changent le monde, une série proposée par Régis Debray, conduite par Didier Leski, avec la collaboration d'Alban Cerisier.
Alors, Naomi Tadouni, vous nous avez dit, il faut créer cette phrase féminine. Est-ce qu'elle y a contribué directement, elle, par son œuvre romanesque, Virginia Woolf? Quel est le lien entre son œuvre de créatrice, à proprement parler, et son œuvre, entre guillemets, pamphlétaire, même si on met beaucoup de guillemets?
Ah oui, je pense qu'elle a certainement contribué largement à créer une phrase qui est très différente. Quand on lit à la première page de Mrs. Dalloway, par exemple, et on entre d'abord dans une conscience qui est un peu indéterminée. On ne sait pas exactement chez qui on est. Et puis ensuite, il y a une phrase très longue, très très longue, qui saute d'une idée à une autre, avec des tirets. Ce n'est pas une phrase qui est grammaticalement construit. Et c'est la différence avec la longue phrase de Proust, par exemple, qui toujours tombe sur ses pieds à la fin. Avec cette phrase de Woolf, en voyage, et c'est cohérent quand même.
Elle est plus aventureuse, la phrase de Woolf, hein, à certains égards.
À certains égards, oui. Ouais.
Nathalie Azoulay, vous qui avez traduit justement Mrs. Dalloway, vous avez le sentiment de cette écriture féminine dans la traduction?
Mais j'ai beaucoup de mal avec cette notion, parce que c'est un peu dangereux. Dans la mesure où la phrase de Woolf manque d'articulation syntaxique, et que celle de Proust évidemment est très articulée, on aurait tendance à penser que la phrase féminine manque d'articulation, ce qui est très dangereux quand même. Donc je sais que la phrase de Woolf est plus sensorielle, elle est plus brisée, et c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait écrire comme on esquisse, en fait. Et donc on entend ça quand on la lit de manière très très nette, et c'est très beau d'ailleurs. Mais le stream of consciousness demande ça aussi, et des hommes l'ont pratiqué et le font aussi. Donc moi j'ai un peu du mal avec ces catégories, parce que je pense que ça va ériger des murs entre le féminin et le masculin littéraire.
Mais dans justement ce rebond de l'œuvre, on va avoir aujourd'hui des séries télévisées, des chansons qui font référence à Virginia Woolf. Il y a quelque chose maintenant de très établi.
C'est une icône, hein. Je pense qu'il y a des mugs et Nathalie des t-shirts avec son visage maintenant. Quand on va à Londres, on peut la trouver sur des sacs. Et...
Il y a une récupération par le marché, comme on dirait.
Oui, mais parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour. C'est-à-dire, elle a ce destin tragique, elle a cette appartenance à des groupes qui ont été quand même des groupes où on a beaucoup innové en termes intellectuels, en termes moraux. C'est-à-dire qu'il y avait de la sexualité très diverse, très circulante chez eux. Et donc, tout ça fait que le personnage est un peu rock, si on peut dire.
Des communautés pré-68 armes,
on pourrait dire. Subversives, oui, avec une grande liberté et un grand mélange des genres. Donc, comme le disait Régis Debray en introduction, elle a vécu aux côtés de Keynes, elle a vécu aux côtés de Bertrand Russell, avec ce mélange aussi entre les lettres et les sciences, qui était très fort dans le groupe.
Et l'économie, bien entendu.
Et l'économie, donc des apôtres de Cambridge et après de Bloomsbury. Donc c'est vrai qu'elle porte en elle une richesse culturelle d'une liberté très contemporaine qui plaît à l'époque.
Mais d'une liberté qu'on redécouvre et pour laquelle on dit les choses aujourd'hui alors qu'elles n'étaient pas dites de manière explicite à l'époque. Par exemple, l'homosexualité n'est pas quelque chose qu'elle revendique.
Oui, et en même temps, dans Une chambre à soi, il y a un énoncé très clair là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a ce personnage imaginaire d'écrivain qui s'appelle Mary Carmichael, et qui écrit ce livre qui s'appelle L'aventure de la vie, avec cet énoncé qu'elle met en exergue, Chloé aimait Olivia. Et donc, quand on lit son œuvre de près, on voit que ce petit trait relatif à l'homosexualité court partout. Dans Mrs. Dalloway, il y a une chose très fondamentale aussi autour de ça.
Mais en même temps, elle le fait dire par un personnage fictif. Ce n'est pas André Gide dans Si le grain ne meurt qui dit « je vais coucher avec le petit arabe », c'est un personnage fictif qui dit dans un roman que, je ne me souviens plus du nom du prénom des personnes à citer, mais donc il y a quand même, ça reste quelque chose d'extraordinairement littéraire quand même, dans la façon en tout cas dont ça s'exprime.
Ça reste une manière de marquer le carcan de l'époque peut-être, Nathalie.
Elle avance masquée, en fait. Donc, c'est une personnalité hyper sophistiquée qui joue avec avec les personas, avec les masques, avec tous les niveaux, et qui, donc, n'est jamais frontale, en fait.
Mais Naomi Todd, est-ce que c'est aussi une façon de jouer avec une possible censure ou une possible difficulté de l'audience de l'époque d'entendre ce genre d'énoncé?
Peut-être, mais je dirais que c'est en moindre mesure. Elle n'était pas... Elle s'affichait pas... complètement comme ayant cette relation, mais c'était pas non plus une relation secrète, donc on voyait bien, et il y avait quand même une sorte de façon dans le groupe de Bloomsbury de parler de ces choses-là de façon assez ouverte. Oui, la société anglaise n'était pas exactement à la miroir, enfin au reflet de ce qui se passait dans Bloomsbury par rapport à ça, mais oui, je pense que pour elle c'était quelque chose de voilà. Mais je voudrais juste revenir sur cette question du rapport entre la phrase qu'elle dit féminine et l'écriture androgyne, parce que je pense que c'est assez important de voir que pour Woolf, cette écriture androgyne auquel on peut accéder si on a sa chambre à soi, si on peut s'échapper à la domination du patriarcat, si on peut vraiment du coup se libérer de sa condition de femme, là, condition de femme entendue par condition dominée, là on va pouvoir avoir une écriture androgyne qui peut jouer avec tous les gens. Ce qui est assez fort chez Woolf, c'est qu'elle imagine une sorte de niveau d'universel ou de généralité qui n'est pas abstrait ou vide, mais qui en fait embrasse tous les genres, toutes les pluralités de vivre la sexualité, est très fluide.
Dans l'androgynie, est le nom en réalité.
Exactement.
Et c'est ce qui fait aujourd'hui sa grande modernité, hein. Nathalie Azoulay, c'est ça qui est aujourd'hui retenu, parce que ce sont les débats de l'époque, enfin du présent.
Oui, c'est vrai que ça fait partie de cette célébrité actuelle, mais je crois qu'au-delà de ça, c'est quand même l'écrivain hein, qui reste majeur, c'est-à-dire tout ce qu'elle apporte au niveau du style, du rythme de la phrase, du flux de conscience, elle l'apporte elle-même d'une manière très spécifique, et je pense que c'est aussi ça qu'on lit dans Une chambre à soi, c'est-à-dire qu'il y a un art du roman aussi qui est profilé dans ce livre. Elle dit que le roman est un genre plus féministe que les autres parce qu'il est moins codifié, qui est plus plastique en fait, et qu'on peut justement y mettre sa voix de manière plus libre, et qu'il correspond aussi à un temps de concentration moindre, c'est-à-dire que pour écrire du théâtre ou de la poésie, elle dit qu'il faut être très très concentré, avoir beaucoup de temps à soi et ne pas avoir d'enfants autour de soi. Or, le roman, on peut l'écrire sur un coin de table. Voilà. Elle dit aussi des choses comme ça.
C'est le genre par lequel les femmes peuvent arriver en littérature.
Voilà,
en
et réalité. C'est pour ça qu'elle fait cette mini-histoire littéraire avec ses romancières anglaises qu'on connaît
notamment
bien.
Notamment Jane Austen. Absolument. Donc qu'elle met au plus haut niveau. Voilà, qui a une place particulière dans sa vision critique de l'histoire littéraire anglaise.
Oui, elle apprécie énormément Jane Austen.
Mais il y a une très grande présence de Jane Austen aussi dans notre société contemporaine. C'est pas totalement un hasard.
Oui.
Il y a une intuition forte, c'est le lien entre la littérature et le public féminin, puisqu'aujourd'hui, on sait que ce sont les femmes qui lisent plus que les hommes, statistiquement.
Les romans, vous voulez dire?
Oui,
c'est vrai. Bon, sans doute, oui, ça relève de cette intuition. Après, il y a d'autres phénomènes qui sont à mettre au compte de cette tendance, je pense. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir justement la place du corps des femmes dans l'écriture. Vous parliez de cette première phrase de Mrs. Dalloway. C'est vrai qu'elle est écrite avec une physiologie féminine, cette phrase. C'est-à-dire qu'elle est dans le mouvement d'une déambulation qui est celle d'une femme, dans une ville, avec une conversation intérieure qui est celle d'une femme, puisque c'est une femme qui prépare une réception et qui a des préoccupations d'hôtesse, en fait. Et donc, c'est aussi cet apport-là qui est majeur chez Woolf et qui n'est pas à mettre au compte d'une séparation des sexes dans l'écriture. Mais il y a quand même cette physiologie qui lui est propre et qu'elle amène au début du XXe siècle et qui se distingue, par exemple, du flux de conscience d'un Joyce. Voilà, très nettement.
Oui. Là où Joyce reste à l'intérieur de chaque
Naomi
personnage.
Tott,
oui, pardon.
Allez-y.
Là où Joyce a tendance dans Ulysse ou ailleurs, on passe d'un personnage, on est dans son flux de conscience, puis on passe à un autre. Alors que chez Woolf, dans Mrs. Dalloway, on voit une sorte de passage d'une conscience à une autre, à une autre, à une autre, avec une fluidité assez remarquable.
Par les souterrains qui les lient, c'est ça, c'est l'image qu'elle emploie.
Les galeries.
Exactement.
Les galeries, oui, pardon, les galeries.
Ouais.
Ce qui donne une part d'universalité finalement à cette méthode, hein, d'une certaine façon, par les liens qu'elle constitue entre les personnages.
Tout à fait.
Ouais, c'est leur subjectivité. On parlait de la question du corps, il y a une phrase célèbre hein, dans Une chambre à soi qui est « Vous devez, bien entendu, elle s'adresse à un public de femme, hein, pour le coup. Vous devez bien entendu continuer à avoir des enfants, mais nous disent-ils à l'unité et non à la douzaine. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc incroyable.
Et là encore, c'est d'une très grande modernité.
Absolument.
On le redécouvre justement, où la question de la contraception, notre corps nous appartient. C'est ça qui fait son écho à partir de la fin des années 60 et dans les années 70.
Absolument. Si on ne veut pas être débordé par la cuisine et le salon et pouvoir se retrancher dans une chambre, il ne faut pas qu'il y ait trop de monde à gérer, donc pas trop d'enfants.
Il y a même, d'une certaine manière, dans le texte, l'idée déjà de la grève des femmes, qui va être un des moments symboliques des combats féministes du début des années 70. Faire la grève des femmes, c'est un peu refuser d'être la ménagère, comme elle l'explique, dans une chambre à soi.
Il y a ça, et puis je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que jeune fille, elle n'a pas le droit d'aller étudier à l'extérieur de chez elle. Je pense que ça, c'est très important. Elle a des frères qui vont à Cambridge, et elle n'a pas le droit. Elle n'a que des enseignements à domicile, donc elle a un répétiteur de grec, etc. Mais elle est très très frustrée, et grâce à ses frères, elle va sur le campus, et elle découvre un monde, et c'est un monde qui change toute sa vie. Donc je crois que ce livre, il est aussi écrit de ce point de vue-là, et qu'il ne faut jamais l'oublier, l'adolescence et la jeunesse. Et
Naomi, toi, tu as votre sens, quelle est l'explication d'une réception un peu tardive en France? Est-ce que Simone de Beauvoir a fait un peu écran au texte séminal presque de Virginia Woolf, hein, parce que quand même les sujets sont très 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 proches. Hein.
Oui, très proches. Et on voit aussi jusqu'à quel point en fait les deux femmes se rejoignent sur beaucoup beaucoup de choses. Donc peut-être. Mais je pense que les traductions un peu tardives aussi ont fait une différence. Et puis ensuite le développement du féminisme aussi, je pense, a contribué parce que ça s'est pas développé de la même manière des deux côtés de l'Atlantique ou de la Manche. Là, on trouve par exemple dans les années 70, dans la redécouverte de Virginia Woolf par les mouvements féministes et par les études de genre qui commencent à naître dans les universités américaines, à cette époque-là, on retrouve des lectures qui sont finalement assez contrastées par rapport à l'héritage de Woolf aussi. On a à la fois dans une littérature à soi, c'est le titre d'un livre important de la fin des années 70, Eliane Showalter, à la fois elle emprunte le titre, c'est clairement une évocation de livre de Woolf, en même temps elle dit une chambre à soi, c'est une retrait du monde public. Et pourtant, en même temps, dans le mouvement féministe, on est en train de dire aussi le monde personnel, individuel, privé, et politique. Et donc on a ces débats et elle contribue à ces débats et son texte est lu des deux côtés.
On lui reproche sa dépolitisation d'une certaine façon, ce qui a été le cas pour Trois-Guinées, on le sait par une certaine critique, il y a ça qui est présent.
Oui, donc il y a une reproche de certaines féministes que ce qu'elles prêchaient, c'était un retrait. Un retrait dans lequel on oublie finalement les conditions féminines. Et je pense que ça, c'est assez intéressant dans la réception française aujourd'hui de Virginia Woolf pour une écrivaine comme Virginie Despentes, par exemple, qui revendique très fortement l'héritage de Virginia Woolf. Et en même temps, je crois que elle voit l'idéal de Virginia Woolf, c'est-à-dire le dépassement de sa condition féminine pour pouvoir écrire une véritable littérature universelle et androgyne, quelque chose qui reste de l'ordre de l'idéal, parce que concrètement, en fait, nous vivons dans des conditions de domination. Et donc, quand elle commence King Kong Theory, à la fois avec une citation d'une chambre à soi, et puis ensuite elle dit « j'écris depuis chez les moches, pour les moches, etc. J'écris depuis la position de Virginie Despentes parce que c'est l'affaire la plus intéressante que j'ai à mener », on voit quand même un contraste assez intéressant avec la façon dans laquelle Woolf se positionne dans son essai des décennies et des décennies plus tôt. Et elle utilise la colère et les émotions que Woolf trouve tord la littérature parce que le produit de la domination. Alors que Virginie Despentes s'en sert pour créer un style différent, nouveau, novatrice.
Mais ça renvoie à la question de l'engagement collectif, puisque d'une certaine manière, dans les débats féministes des années 70, il y a l'idée qu'il y a un courant féministe lutte des classes qui justement s'intéresse beaucoup plus aux questions matérielles, et puis il y a un courant plus essentialiste qui justement va se référer beaucoup plus à Virginia Woolf, avec cette idée que en étant dans un espace à soi, sa condition ou son essence pourra mieux se développer.
Moi, je crois qu'il y a autre chose qui fait que le livre n'a pas été comme ça aussi central pour les Français, c'est qu'il a une forme très insaisissable, c'est-à-dire qu'il n'est pas un essai argumentatif classique comme les Français en écrivent. C'est pas le deuxième sexe avec une colonne vertébrale, voilà, très rationnelle, très démonstrative. Là, pas du tout. Elle échappe. C'est un peu une anguille, ce livre. Et donc, pour les Français, ça répond pas aux critères habituels du livre à charge et du pamphlet et
du livre de combat. Même si nous sommes tous les enfants de Montaigne.
Bah pas tout, je crois déjà. Et en plus, pour les féministes des années 70 et ensuite, il fallait des choses beaucoup plus combatives et beaucoup plus clairement identifiées en France. Donc je pense que le livre a aussi ce destin-là à cause de sa forme.
C'est vrai qu'il y a une dimension très scientifique chez Simone de Beauvoir.
Absolument, c'est un plan articulé.
Avec de manière des sources, et d'ailleurs Virginia Woolf est une des sources de Simone de Beauvoir, voilà, mais traitée comme telle en réalité.
Absolument, mais Woolf écrit son essai comme elle écrit ses romans.
Oui. Et en même temps, c'est un roman qui, un essai ou roman, qui dès le départ a un grand succès. 100 000 exemplaires vendus aux États-Unis immédiatement.
Oui, il y a une réception très forte.
Je crois qu'il y a 10 000 exemplaires en Angleterre en 4 mois qui s'écoulent.
Elle dit que ça va leur permettre de vivre quelques années, je crois, quelque part.
Ce qui montre aussi que la demande à l'époque pour une réflexion sur ces questions était énorme. C'était l'année où les femmes ont obtenu le droit de vote au même titre que les hommes en Angleterre. Donc du coup, et elle déplace la question totalement. Le droit de vote est beaucoup moins important, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'une condition économique qui va faire en sorte que quelqu'un puisse véritablement écrire. Mais cette réception a continué. Aujourd'hui, on voit que après, dans les années 80, où The Smiths ont fait une chanson qui s'appelle La sœur de Shakespeare, et puis ensuite il y avait un autre groupe de rock féminin, la sœur de Shakespeare, qui a eu beaucoup de succès. Et tout ça, c'est des traces de la lecture d'une chambre à soi.
Mais il faut s'en réjouir, hein, ou c'est aussi la voie d'une simplification exagérée du propos de Woolf, de la subtilité de son argument, de sa sinuosité, de son humour, de son ironie. Elle n'est jamais exactement là où on pense qu'elle va être. Enfin bon,
les deux, je pense.
Oui.
Les deux, c'est-à-dire à la fois tant mieux parce que ça lui permet de perdurer et de traverser les époques et qu'elle en vaut vraiment la peine. Et en même temps, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ne s'arrête pas à la couverture et qu'on lise vraiment le livre pour voir toutes ses subtilités et la sophistication de sa pensée, justement, et qu'on ne l'aplatisse pas trop.
Tout à fait. Si ça fait que quelqu'un va acheter une chambre à soi et le lire, ben, tant mieux.
Et du reste, c'est d'une lecture, pour le coup, beaucoup plus facile que le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Enfin, c'est
plus rapide.
Plus rapide, donc plus accessible chez les jeunes. Non, aujourd'hui, est-ce que c'est un livre lu par des jeunes et en particulier les jeunes femmes?
Ah, je crois que oui. Ouais.
Hein, vos étudiants et vos étudiantes le lisent?
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc et pas uniquement parce que je les conseille, mais c'est aussi quelque chose.
Pas uniquement parce que vous allez les noter.
Non plus, voilà.
Et Nathalie Azoulay, vous qui avez donc traduit récemment Mrs. Dalloway, ce petit débat sur le titre, hein, qu'est-ce qui fait qu'on doit sans cesse reprendre un titre, la traduction d'un titre, son ajustement, qu'est-ce que ça dit finalement de la réception d'une œuvre au sein?
Mais ça dit que la traduction est une chose impossible et que donc on est tout le temps en train d'essayer de l'améliorer, de changer de position par rapport au texte original et de proposer quelque chose de nouveau. Donc c'est vrai que sur le titre qui nous occupe aujourd'hui, Une chambre à soi, il y a eu un débat assez récent sur le mot chambre, puisqu'en anglais c'est room, et que room ça peut être la bedroom, la chambre à coucher, ou bien la pièce dans la maison.
Et ça donc peut être les deux. Ça peut être les deux.
Ben je crois. Je parle sous le contrôle de Naomi, mais je crois que oui. Et donc, c'est vrai que la postérité de ce livre, c'est plutôt une chambre à soi. Et moi, j'ai une petite préférence pour le mot chambre, parce qu'il est dans la maison et que c'est très important qu'il y ait la maison au-dessus, autour, et que la chambre, ça s'oppose au salon. Et c'est très important aussi dans la démonstration d'histoire littéraire que fait Woolf dans le livre, qu'on sorte du salon, justement, pour pouvoir se retrancher dans une autre pièce. Et quand on propose des options un peu alternatives, comme le lieu ou la pièce ou l'espace, on tombe dans des notions plus froides, plus anonymes, qui sont moins rattachées à la vie de famille. Et je pense que la vie de famille est très importante puisqu'il faut s'en émanciper. Et que le combat est là, en fait. Et que si donc on a une chambre en ville qui est complètement détachée, alors il n'y a peut-être jamais eu de famille, donc jamais de frein. Et donc le combat est moins fort. Donc moi, je tiens à cette traduction, mais je conçois tout à fait que de nouvelles traductions fassent de nouvelles propositions.
Et Naomi Todd, vous êtes d'accord avec cette démonstration de Nathalie Azoulay ?
Oui, oui, oui. Moi, j'aime bien le mot chambre. Je pense que c'est important aussi que ce soit en effet un lieu qui n'est pas interrompu par un mari, par des enfants, par des tâches domestiques, et qui, en même temps, nous rappelle ça.
Et qui, en même temps, rappelle que la vie, ça peut être aussi avoir des enfants, avoir une famille, qu'il n'y a pas là une coupure, mais quelque chose qu'il faut maîtriser, harmoniser, pour que personne ne soit dominé. C'est ça l'enjeu, Nathalie Azoulay.
C'est ça, oui, absolument. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir circuler. Il faut pouvoir être d'un côté et de l'autre, et c'est là que la liberté sera totale, si elle peut l'être. Mais qu'il y a de la difficulté, il y a des entraves, et elle ne cesse de rappeler ces entraves, et elle a raison de le faire, parce qu'elles sont fortes. Mais par exemple, elle dit que Jane Austen écrit au salon, ouais. Et c'est très important de l'entendre aussi, ce sitting room, je crois, qu'elle utilise. Et donc la chambre s'oppose à ça, sans compter que dans l'œuvre de Woolf, il y a d'autres chambres, il y a la chambre de Jacob, enfin voilà, donc c'est vrai que si on sort de la maison, on loupe quelque chose de l'œuvre.
Et en votre qualité de romancière, d'éditrice, donc de personnalité de la vie littéraire française, on peut le dire, votre perception, c'est que Virginia Woolf a réussi son coup, et vous vous rattachez à la position de Régis Debray, énoncé en début d'émission, que c'est la révolution féministe, c'est la seule qui a été couronnée de succès en ce siècle.
Alors ça n'engage que lui.
En tout cas, c'est la seule révolution permanente.
Votre position sur ça.
C'est la seule révolution permanente.
Oui, avec ce que les révolutions ont d'excessif et de dangereux.
Je parle de la vie littéraire, là, en vrai.
Ah, dans la vie littéraire, mais je crois que dans la vie littéraire, il n'est plus question de cette révolution parce que c'est bon, quoi. Il y a beaucoup de femmes.
En tout cas, en France.
Oui, mais il y a beaucoup de femmes. Moi, je fais partie d'un jury littéraire où il n'y a que des femmes. J'ai l'impression que les femmes écrivent beaucoup de romans, et qu'elles sont célébrées pour ça autant que les hommes. Donc moi, je ne vois plus trop de freins. Et quand Woolf dit il faut qu'on pense à travers nos mères, et il n'y a pas de mères, mais je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de mères. Donc il y en a sans doute moins que de pères, mais on a beaucoup de mères quand même en littérature. Donc il faut qu'il y en ait toujours plus. Mais je ne pense pas que le problème soit là désormais.
Mais avec quand même un effet différé, parce qu'on est dans les années 20 avec Virginia Woolf, et que la véritable révolution dans l'expression d'une littérature produite, écrite par des femmes, pour ce qui est de la France, en tout cas, elle date plutôt des années 80, c'est-à-dire 60 ans plus tard, quand même.
Oui, oui, c'est vrai que tout ça est lent, long, mais ça avance. Et elle dit, à un moment donné, que dans 100 ans, sa romancière Mary Carmichael sera poète. Ouais, bah, ça y est, on y est. On est 100 ans plus tard.
Oui, c'est ce qui lie Naomi Todd, sa perception subjective des choses, et finalement une vision très très collective où le temps n'a plus, enfin où elle distend en permanence le temps, les singularités, etc., pour entrer dans une sorte de grande histoire finalement, de perception longue, de longue durée.
Tout à fait, tout à fait. Et même si je crois que évidemment les situations historiques ont énormément changé depuis 1928, et donc du coup on est dans une scène littéraire aussi extrêmement différente où il y a une représentation féminine beaucoup plus importante, une représentation des femmes, je veux dire. Je suis pas complètement sûre que c'est terminé pour autant.
C'est jamais terminé, mais on avance bien.
Je pense que le mouvement MeToo aussi montre que dans le domaine de la culture en général, on n'a pas fini. On n'a pas fini d'essayer de voir quelles sont les structures hiérarchiques qui empêchent des femmes de prendre leur juste place au sein de la culture.
Mais c'est le propre de la révolution permanente de ne jamais être terminée.
Oui, mais est-ce que c'est pas là aussi sa qualité de devancière à ce moment-là, c'est-à-dire cette capacité à voir que finalement cette révolution sera sur la longue durée, encore une fois. Elle dit jamais c'est demain la révolution, enfin ou c'est aujourd'hui ou demain la révolution. Oui. Elle donne des pistes, hein. Une Guinée, une autre Guinée dans son deuxième essai, mais je veux dire, elle est pas dans c'est pas le grand soir. Hein. C'est un grand soir qui va durer en réalité, non? On le sent dans son texte quand même ça.
Oui, oui, oui. Elle s'inscrit dans un temps très long. Bien au-delà de la temporalité d'une vie humaine individuelle. Et le roman Orlando, qu'elle publie au même moment, le montre extrêmement bien. Que, en fait, on écrit maintenant, mais on écrit aussi pour nos petits enfants.
C'est un investissement en réalité.
Voilà. Dans ce sens-là, c'est une vraie littérature de combat.
Oui.
Bah, c'est à mon sens le seul combat digne de ce nom, c'est-à-dire qu'il est lent. Il est lent. Il est difficile. Il est parfois un peu menacé, précaire, mais il avance.
Et c'est ce qui fait la force encore de ce livre, c'est que le combat avance. Et justement, Régis Debray, ce combat qui avance et cette révolution permanente qui continue et qui est la révolution féministe.
Oui, mais elle est encore insuffisante. C'est une étape. C'est une étape vers la révolution androgyne. Moi, j'ai été frappé en vous écoutant, évidemment, d'abord de l'extrême contemporanéité, modernité d'une femme née tout de même en 1882. C'est vraiment sidérant. La femme est donc l'avenir de l'homme, on le savait déjà, mais enfin, là, c'est en quelque sorte attesté. Mais la revendication de l'androgyne dont vous avez parlé, Nathalie Azoulay, elle pourrait bien devenir, je dirais, un programme. Autrement dit, il pourrait y avoir deux chambres, au fond, dans les appartements du futur. Et pas seulement une chambre à elle, mais également une chambre à lui, et donc deux chambres dans un même lieu, c'est-à-dire qu'au fond, fin de la domination patriarcale s'est établie. Aujourd'hui, victoire de la domination du matriarcat qui est établie, enfin qui est en gestation. Enfin, nous vivons dans une société matriarcale. Et je trouve que il y a une capacité prophétique et futuriste dans l'idée d'une société androgyne. Ça, c'est le programme pour les 100 prochaines années, mais enfin, on peut anticiper. Pour le reste, en vous écoutant, on trouve évidemment toujours cette dialectique entre l'hétérodoxe d'hier qui devient l'orthodoxe d'aujourd'hui, la marginale qui devient centrale. Bon, ça, c'est un phénomène classique, mais moi, je voudrais simplement rappeler une chose, c'est qu'elle était britannique. Et que la Grande-Bretagne, moi j'ai essayé d'être avoir la nationalité anglaise, mais elle ne m'a pas été accordée. J'insiste, mais c'est foutu. Parce qu'il est évident que la Grande-Bretagne est ce qu'il y a de plus novateur et de plus futuriste en Europe, parce que de plus conservateur et de plus, je dirais, monarchique, autrement dit, cette dialectique entre l'excentricité et le traditionnalisme est le propre de la Grande-Bretagne. C'est pourquoi la Grande-Bretagne est très en avance sur l'Europe. Elle a bien fait d'ailleurs d'en sortir. Elle explore un autre monde déjà. Mais je trouve que nous ne sommes pas assez reconnaissants à la Grande-Bretagne de sa marginalité en Europe, qui est au fond toujours prémonitoire. Et notamment, disons, la patrie de la tradition et la patrie de l'excentrique. Et l'un parce que l'autre. Et l'autre parce que l'un. Et ça, c'est en Grande-Bretagne que cela éclate. C'est pourquoi nous devons tout faire pour devenir britanniques.
Merci Régis Debray, merci Nathalie Azoulay, merci Naomi Tott.
Comment les livres changent le monde ? Déjà disponible en intégralité sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
C'était Comment les livres changent le monde, préparation Marie Viguier, prise de son Dalia, réalisation Guillaume Baldi. Demain, Paul Valéry, regard sur le monde actuel.